Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, ainsi que Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. Nous aborderons avec eux la question de la désindustrialisation, de la crise de la dette et du concept de démocratie. Mais d'ici là, 30 minutes de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1105. Jean au micro, salut. C'était le groupe Other Lives, extrait de leur dernier album Tamers, Animals, Dark Horse. Découverte maintenant avec le duo Winter Family. Extrait de l'album Red Sugar, Searching Donkeys.
Chère gouffre du grand, que t'es à y croire. ישרים מאיימים בעיקרם. רק אז את יודע שהבוקר מגיע מציל אותה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות והזמנה שעלולה הייתה להידבק כליהן בלילה. את כאן הבוקר מגיע. הבוקר בא. לשכוח את חלומות הלב מגדילה מבט אש הקטינה הראשונה מרחיבה לשבתי את מודה כל בוקר שהחזר בשבתי
Winter Family, c'est-à-dire le duo Russ Rosenthal et Xavier Klein, est donc extrait de l'album Red Sugar, paru en septembre 2011. The Gutter Twins, c'est-à-dire Greg Dulli et Mark Lanegan. Leur première collaboration en 2008.
Thank you.
Retour à Winter Family avec un autre extrait, Omaha.
For war that happened long ago.
Latex on my fingertips. like stone.
Tindersticks, que vous commencez à bien connaître, l'extrait de leur dernier album Something Rain, et là c'est Jesus and Mary Chain, et juste après nous recevrons Laurent Cordonnier et Philippe Ledoussal. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, toujours libre et sans pub. magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Journal de Tumulte, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1, ainsi que Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. Avec Laurent, nous allons aborder la question de la désindustrialisation, de la crise de la dette, et avec Philippe, la question de la démocratie. Coup de projecteur philosophique. Salut, et au passage, on fait un petit coucou à Guy, on espère qu'il sera bientôt de retour dans Tumulte. Alors Laurent, pour commencer, la question de la désindustrialisation qui a fait l'objet d'un dossier dans le Monde diplomatique de mars. On est déjà passé au Monde diplomatique d'avril, un dossier qui resitue un petit peu cette question, parce que la question de l'industrialisation, de la désindustrialisation avait été traitée de telle manière qu'on l'avait fait disparaître, puisqu'on disait qu'on était passé en gros à la prédominance de l'économie de la connaissance, du capital virtuel.
Et puis qu'on allait vers une société... de services et de loisirs, et donc dans ce monde-là, finalement, la production de biens industriels n'était plus nécessairement stratégique. Bon, alors, et c'est vrai que bon, beaucoup de gens ont entonné cette musique-là avec beaucoup de légèreté, il faut le dire, pour une raison simple, on a forcément besoin d'une production industrielle sur un territoire national ou sur un espace économique plus vaste, mais sur lequel il y aurait une logique macroéconomique et une logique politique institutionnalisée. Pourquoi ? Ben, simplement parce que quand on commerce avec les autres, c'est essentiellement par des échanges de biens. Hein. 80% de notre commerce extérieur, ce sont des biens industriels, des biens manufacturés, et 20% seulement des services. Donc tout simplement, si on a besoin de biens venant d'ailleurs, et nous par exemple, c'est typiquement le cas par exemple des matières premières et de l'énergie, mais aussi d'autres biens qui peuvent être manufacturés dans le reste du monde, ben, il faut pouvoir leur donner des biens industriels en échange. Faute de quoi, on accumule des déficits commerciaux, et la conséquence des déficits commerciaux, c'est que c'est des revenus qui sont versés ici, et qui sont dépensés ailleurs, sur la planète, et qui donc ne reviennent pas s'adresser sous forme de demande à nos propres entreprises du territoire, et donc ils les rendent moins rentables et à terme non viables. Bon. Donc en fait, un déficit du commerce extérieur lié à une désindustrialisation bien nous empêche d'avoir notre bouclage macroéconomique revenus-dépenses sur le territoire et met l'ensemble finalement des entreprises en difficulté, pas seulement celles qui sont dans les secteurs exportateurs. Bon, et puis par ailleurs, l'emploi industriel, c'est tout de même, c'était jusque dans les années 80 à peu près 25% de la population active. Dans un pays comme la France, c'était ça. Et aujourd'hui, ça n'est plus que 13 à 14, 15%. Ce qui fait que, bah, évidemment, si des emplois industriels disparaissent, on peut se demander, sont-ils remplacés par d'autres choses ? Alors, en partie, oui. Ils sont en partie remplacés, mais généralement par des emplois dans le secteur des services, et dans le secteur des services, par des services opérationnels aux entreprises, des services de nettoyage, des services d'aide à la personne, qui en termes de valeur ajoutée et de salaire ne sont pas du tout équivalents à des emplois industriels. L'écart de salaire peut être de l'ordre de moins 30% à moins 40% entre des emplois peu qualifiés dans l'industrie ou moyennement qualifiés dans l'industrie et le même type de qualification employée dans les services. Donc on ne remplace pas non plus l'industrie par de bons emplois dans les services. Donc c'est ça qui fait quand même qu'on ne peut pas se désintéresser de cette question.
Alors, une des affirmations du dossier du monde diplomatique, je repars de là, c'est que l'industrialisation structure encore les rapports de force au niveau mondial et fixe les rapports géopolitiques entre les différents pays ou groupes de pays. Et il indique que, par exemple, l'année 2011, c'est quand même une année clé où la Chine devient le plus grand pays industriel.
Oui, enfin, pour moi, c'est une assertion qui me paraît un tout petit peu abstraite. Je ne fais pas le lien aussi net que ce qui est fait dans l'article entre, disons, puissance industrielle et puissance politique. Bon, je ne vais pas citer le cas de la Suisse ou le cas du Luxembourg. Bon, alors, vous me direz, ce n'est pas des grandes puissances politiques. Mais enfin, bon, si quand même, c'est des pays qui ont une autonomie politique et qui ne l'ont pas forcément assise sur un grand destin industriel. Donc, bon, j'ai une difficulté avec cette chose. C'est plus indirect. C'est que sans industrie, un pays de la taille de la France en particulier, qui ne peut pas se spécialiser sur quelque chose comme la finance ou du remplacement, bah sans industrie, elle a une économie qui chaote, encore une fois, parce qu'elle vient tout le temps buter sur le problème de sa contrainte extérieure. Et donc une économie qui chaote fait de vous une faible puissance économique. Et effectivement, la puissance économique en général donne du poids politique et du pouvoir de négociation dans les instances internationales, dans les donnants-donnants qui peuvent se produire, dans la fixation des règles du commerce international. Ça, il me semble que c'est juste.
Alors la France est citée comme l'un des pays d'Europe qui a connu la plus forte des industrialisations.
Oui. Oui, c'est vrai.
Alors comment la désindustrialisation, est-ce que c'est d'abord les délocalisations ?
Alors ben c'est vraiment toute la difficulté là, justement, de faire la part des choses, et on trouvera peu de rapports ou d'études, de rapports de recherche qui seront très catégoriques sur cette question. Et alors on va essayer de faire un petit peu la part des choses, mais en ayant dit que, bon, certes la France se désindustrialise de manière rapide et spectaculaire depuis les années 80, on pourrait dire qu'on a presque perdu la moitié de notre secteur industriel, mais c'est quand même commun à beaucoup de pays de l'OCDE, avec des plus et des moins, bien sûr. Mais par exemple, aux États-Unis, la perspective n'est pas du tout moins inquiétante qu'en France, et ils se posent les problèmes peut-être encore avec plus d'urgence que nous. Mais alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les causes de cette désindustrialisation ? Alors, avant d'examiner la question des délocalisations, on peut avancer quand même des causes qui sont avérées et que tout le monde admet, qui ne sont pas trop controversées. Première cause, c'est que, de toute façon, les gains de productivité sont plus importants, les gains de productivité du travail sont plus importants dans l'industrie que dans les services. Hein? Alors, bon, on doit toujours nuancer ce type de jugement. Mon collègue, sans doute Jean Gadret, dirait que pour une part c'est lié à une mauvaise évaluation de la productivité dans le secteur des services. Mais tout de même, on voit bien qu'entre un cours de mathématiques qui dure 55 minutes, on ne peut pas le faire l'année suivante en 50 minutes et l'année d'après en 45 minutes et l'année d'après en 35. À moins que les élèves s'améliorent par génération spontanée. Donc on voit que dans certaines prestations de services, comme une opération à l'hôpital, ou un morceau de musique, ou une prestation d'enseignement, ou un service au restaurant, on peut difficilement contracter le temps de travail pour faire l'opération. Alors que dans l'industrie, par l'allongement des séries, par l'intégration du progrès technique dans les machines, par une meilleure organisation du travail, on obtient, bon an mal an, même mal an, 2 à 3% de gains de productivité par an. Bon. Et donc voilà, il est normal que tendanciellement, à mesure que les économies se développent, on mette moins de temps à fabriquer nos biens, alors qu'on continue à mettre à peu près le même temps pour fabriquer nos services. Et donc la part de l'industrie diminue dans l'industrie nationale. Ça, c'est à peu près normal. Bon. Alors ceux qui avancent des chiffres disent que, bon, ben, grosso modo, cet effet de différentiel de productivité entre services et industrie explique à peu près un tiers du mouvement de désindustrialisation. Ce qui n'est pas rien tout de même. Ensuite, il y a un deuxième effet qui est avéré et qu'on chiffre généralement à peu près à un quart de l'explication. Donc un tiers plus un quart, Jean, je te laisserai dire combien ça fait dans 100%. 25 plus 33, on est à 58. Alors, ce quart de l'explication consiste à dire qu'il y a eu un mouvement de réorganisation du tissu économique, y compris dans les pays développés, qui fait que l'industrie a externalisé une partie de ses activités dans des entreprises de services. Bon, l'exemple le plus simple, c'est que la cantine de Renault, c'est plus la cantine de Renault, c'est éventuellement Sodexo qui fait la prestation de service de repas dans l'entreprise Renault. Bon, et donc, ce qui était considéré comme de l'emploi industriel, parce que les gens à la cantine étaient dans ceux qui travaillaient à la cantine étaient dans l'établissement Renault, n'en font plus partie, et maintenant font partie d'une entreprise de prestation de service. On peut dire la même chose pour le ménage, on peut dire la même chose pour certaines tâches importantes, la facturation, la comptabilité, voire éventuellement des services financiers. Donc ce mouvement-là n'est pas du tout banal, enfin il n'est pas du tout à négliger, il est assez puissant. Mais grosso modo, ça veut dire qu'on ne s'est pas autant désindustrialisé qu'on le penserait à l'origine, puisque c'est plutôt un problème de catégorie comptable, hein, et les emplois ont basculé d'une catégorie comptable à l'autre, mais grosso modo, alors c'est pas tout à fait les mêmes emplois non plus. Il valait mieux sans doute être employé chez Renault et à la cantine de chez Renault bénéficiant des conventions et des normes salariales de Renault que d'être balancé dans une entreprise de service qui vous met en concurrence avec toutes les autres pour obtenir le marché. Mais bon, voilà, ça...
Et dans ce type d'emploi, d'ailleurs, on retrouve beaucoup de main-d'œuvre immigrée. C'est un peu la délocalisation sur place, non ?
Alors, effectivement, ces emplois-là, généralement, on fait fortement baisser les normes salariales et ont été tout heureux de trouver, entre guillemets, une main-d'œuvre pour qui ça représentait un radeau de survie. Bon, donc, effectivement, dans ces emplois-là, on trouve pour une très grande part de la main-d'œuvre immigrée. Oui. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Alors, il y a un troisième facteur qui est souvent indiqué, c'est que avec l'ouverture des frontières, les coûts salariaux en Europe seraient plus élevés que les coûts salariaux dans les pays émergents qui sont venus nous concurrencer, la Chine, l'Inde, le Brésil. Alors, c'est vraiment une explication qu'il faut prendre avec précaution, et en plus, on ne voit pas arriver de jugement très catégorique, ni de part et d'autre sur cette question. Parce qu'il faut se souvenir que jusque dans les années 2000, à peu près, le commerce extérieur de la France, 2002, jusqu'à 2002-2003, le commerce extérieur de la France est relativement équilibré. Bon. Depuis cette date-là, les coûts salariaux français ont évolué très modérément. On l'a dit plusieurs fois ici, mais ils ont évolué quasiment en ligne avec l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne. Donc on ne peut pas prétendre à un dérapage du coût salarial unitaire dans l'industrie. Et quand on compare par exemple nos coûts salariaux avec ceux de l'Allemagne, le coût d'une heure de travail dans l'industrie, c'est quasiment le même en France et en Allemagne. Sachant qu'on a même peut-être un niveau de productivité un peu meilleur que les Allemands. Donc, c'est difficile de dire que la dégradation du commerce extérieur français est venue d'un dérapage des coûts salariaux. Mais l'autre pendant ou l'autre explication possible semble pas très différente, or elle l'est tout de même un petit peu, c'est que quand même, progressivement, le commerce mondial a été fortement libéralisé. Hein. Et donc, cet effet ouverture a pu faire jouer des différentiels de coûts salariaux qui ne jouaient pas avant l'ouverture. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas nos coûts salariaux qui ont dérapé, mais c'est le fait qu'il y avait déjà des différentiels importants entre ici et les pays émergents. Et à mesure que les économies se sont ouvertes, ces différentiels de coûts salariaux sont devenus un élément crucial de la compétitivité des produits. Et ça, je crois que ça, c'est une bonne partie de l'explication qui nous manque. C'est l'effet d'ouverture, Bon. Des produits qui n'étaient pas concurrencés autrefois parce que il y avait des tas de barrières douanières, tarifaires, réglementaires pour l'importation, des tas de produits qui étaient protégés d'une certaine manière ne le sont plus dans les différents pays du monde. Et pour les États-Unis, c'est assez flagrant. Hein. Un certain nombre de pans de l'industrie se sont effondrés à partir du moment où tout a été facilité dans l'import-export, et en particulier avec la Chine. Donc là, le rôle des pays émergents est important, et le différentiel de compétitivité salariale a dû jouer. Mais on a du mal à séparer cet effet-là, qui joue certainement, hein, c'est pas parce qu'on a du mal à séparer qu'il n'est pas là, mais on a du mal à séparer cet effet d'ouverture, et on pourrait dire de choc de compétitivité coût, d'un autre effet, sans doute là, que subit la France, mais que ne subit pas l'Allemagne, qui est un mauvais positionnement en termes de gamme de produits dans le commerce international. Bon, ça veut dire que il est possible que notre positionnement ait été à peu près correct jusqu'à la fin des années 95-2000, qu'on vendait à peu près ce que le monde demandait, et en particulier, il faut vendre ce que le monde demande, mais là où il est en croissance, si on veut avoir un commerce extérieur tiré par la demande dans ces pays-là. Donc il était possible que jusque dans ces années-là, notre positionnement était à peu près correct, et puis qu'ensuite, on n'est plus bien positionné dans les gammes, on n'a plus l'avance qu'on avait dans certains secteurs comme l'aéronautique, le transport terrestre, l'ingénierie, etc. Et du coup, ce qui était notre force jusqu'ici n'est plus l'avantage sur lequel on peut compter. Alors cette explication-là est quand même mobilisée par un certain nombre de gens qui disent qu'effectivement la France a un problème, disons, de compétitivité de ses produits à l'extérieur, mais qui est vraiment dû à un problème de positionnement commercial de ses produits. Alors que l'Allemagne aurait correctement reconfiguré sa stratégie, et surtout, elle aurait été, d'une certaine manière, déjà sur les créneaux porteurs. Bon. Enfin, on pense tous, effectivement, que quand les classes moyennes augmentent en Chine, le désir, on ne va pas citer de marque, mais de Mercedes, fait que l'Allemagne est plutôt bien positionnée sur ces segments-là. Bon, voilà, c'est ce cas typique.
Donc, juste une question, Laurent. La délocalisation, on la présente souvent comme étant liée à la concurrence des niveaux de salaire, elle peut être liée aujourd'hui au fait que, justement, dans les pays émergents, il y a des nouveaux marchés ouverts, des gens qui veulent consommer, des gens qui arrivent sur la...
Oui.
Et que donc, les entreprises vont aussi délocaliser pour produire sur place et vendre sur place, non ?
Alors, tout à fait. Ça peut être, ça peut être une autre explication de la chose. C'est plutôt que de prendre la base du territoire français comme étant une base d'exportation vers les pays émergents, il y a un moment, ça vaut le coup de se rapprocher de son marché. Et si la prospérité est là-bas, c'est pas la peine de maintenir l'activité ici. Je parle de la stratégie des firmes multinationales qui ne raisonnent pas en termes de territoire politique, mais en termes uniquement de stratégie économique. Oui, tout à fait. Et cet aspect-là est relativement important. Alors peut-être une dernière chose quand même qui a créé sans doute une forte asymétrie entre l'Allemagne et la France, c'est que sans doute la France a subi davantage que l'Allemagne la surévaluation de l'euro, en tous les cas dans la période 2000-2006. Et quand on sait que ça a des effets un peu retardés, toutes ces choses-là, on est peut-être en train d'en payer le prix aujourd'hui, parce que l'Allemagne a profité de cette surévaluation de l'euro, justement pour se repositionner correctement sur ses marchés extérieurs, et surtout faire de ce qu'on appelle de l'outsourcing, c'est-à-dire se demander à quels étaient les segments de la conception et de la production des produits qu'ils voulaient garder sur le territoire, et qu'est-ce qui valait la peine, grâce à un euro fort, d'aller chercher à l'extérieur pour bénéficier de cette surévaluation de l'euro, c'est-à-dire, d'une certaine manière, d'un pouvoir d'achat élevé qui diminue le coût de leurs intrants s'ils sont produits à l'extérieur. Intrants et produits semi-finis. Et donc l'Allemagne s'est mise d'une certaine manière, il y a un Allemand qui appelle ça une économie de bazar, mais c'est une économie de bazar qui fonctionne pas trop mal. On profite de la surévaluation de l'euro pour acheter moins cher les produits qu'on fait fabriquer à l'étranger, et puis on les revend en étant bien positionné sur les gammes à l'intérieur de l'Europe, et à l'intérieur de l'Europe on ne souffre pas la surévaluation de l'euro. Voilà, et c'est ça qui explique pour une grande part la différence de performance à l'exportation entre l'Allemagne et la France.
Juste un dernier mot, la question de la désindustrialisation était très présente dans les débuts de la campagne présidentielle et on a l'impression qu'elle a complètement disparu. Alors bon, je ne sais pas si il faut discuter de ça, mais est-ce que, lié à la question de la désindustrialisation, il faut encore reposer le problème du protectionnisme, de taxes qui seraient liées au kilométrage entre la production du bien et puis le lieu de l'achat, ce genre de choses?
Oui, parce que... C'est une hypothèse, mais pourquoi ça a disparu du débat? Tu le dis, en fait. C'est parce que si on veut essayer d'attaquer ce problème-là, il faut retrousser ses manches. Et donc les mesures ou les dispositifs qu'il faut mettre en place pour lutter contre cette désindustrialisation, ce n'est pas des petites mesurettes. C'est des mesures du type, il faut peut-être faire passer l'effort de recherche-développement de la France de 2 à 3% du produit intérieur brut. Bon, et donc comment on fait, sachant que on tape à bras raccourcis sur l'université, les centres de recherche, etc. On n'en a pas pris du tout le chemin. Bon. Il faut trouver des mécanismes de financement tout à fait adaptés pour les PME et les établissements de taille intermédiaire. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre en main le système financier et ne pas le laisser aller à son rationnement du crédit habituel. Ensuite, il faut peut-être envisager ces mesures de rééquilibrage de l'échange extérieur par des taxes kilométriques. On peut imaginer d'autres dispositifs. Je pense qu'une des règles du commerce mondial, ça devrait être que les pays qui accumulent des excédents du commerce extérieur se voient pénalisés par des droits de douane dans le monde. Parce que ça veut dire qu'ils ne s'occupent pas non plus de leurs demandes internes. Et donc, en ne s'occupant pas de leurs demandes internes, ils créent un jeu coopératif pour le reste du monde. Bon. Donc, on pourrait imaginer effectivement des règles protectionnistes ou disons de rééquilibrage des avantages comparatifs. Mais on voit bien qu'en faisant cette liste, il faudrait vraiment être décidé à régler le problème et à surmonter un certain nombre de dogmes, voire d'intérêts puissants.
Alors on va juste donner quelques éléments sur la situation de la crise de la dette, Laurent. Et après, on fera une pause musicale, ça te permettra de souffler un peu.
Oh, et puis ce sera Philippe.
Après, ça sera Philippe d'être sur le grill.
Sur la démocratie. Ouais. Bon, on ne va pas dire tellement de choses, sauf que rappeler que la période est un petit peu étrange parce qu'on a l'impression que apparemment les choses sont bien calmées.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'est cool. Il n'y a plus de sommet européen de la dernière chance, hein, parce que vous vous souvenez, on s'en a quand même payé une dizaine en 2 ans. Le nouveau mécanisme européen de stabilité financière va bientôt être complètement opérationnel.
En juillet.
Les taux d'intérêt sur les dettes publiques, en particulier celles qui s'échauffaient un petit peu, l'Italie et l'Espagne, se sont un petit peu calmés. Enfin bon, un petit peu calmés. La Banque Centrale Européenne a à moitié réussi son coup en refinançant les banques à des taux d'intérêt très bas, de 1% avec des facilités de trésorerie sur 3 ans. Et les banques, en particulier italiennes et espagnoles, ont un peu utilisé cette manne pour racheter de la dette publique de leur pays, ce qui est une bonne opération pour elles, hein, puisque si elles achètent des titres à 3 ans de leur gouvernement, c'est des titres qui sont rémunérés entre 4 et 5%. Quand elles-mêmes, elles ont emprunté à la BCE à 1%, bon, voilà, ça peut couvrir une crainte, surtout si elle est exagérée, de défauts. Voilà, donc ces coups-là ont été joués. Le nouveau pacte renforcé de stabilité est en train d'être adopté. On a l'impression que tout est calme. Et alors, en réalité, c'est quand même de l'eau qui semble dormir, mais ça risque de bouillir dans la marmite, parce qu'on arrive au moment où il y a une nouvelle épreuve de vérité qui est en train de se dessiner. Cette épreuve de vérité, c'est l'effet même des politiques de rigueur sur la restauration des finances publiques. Est-ce que ces politiques de rigueur vont réussir à restaurer les finances publiques? Alors, à part la France, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont rentrés correctement dans la programmation de leur réduction des finances publiques. En fait, si on regarde un petit peu pays par pays, ils ne sont pas sur la trajectoire des promesses qu'ils avaient faites pour rétablir leurs finances publiques. Mais en plus, maintenant, la récession est là, en Europe. Alors, ce n'est pas une récession extrêmement profonde, mais enfin, il va y avoir croissance 0, voire moins 0,5, voire moins 0,7, au moins pendant le premier semestre, le deuxième. Certains disent, bon, de toute façon, c'est déjà de la récession sur 2012-2014. Et donc là, ça va créer des difficultés énormes pour faire rentrer l'impôt, hein, qui dépend quand même de la croissance économique. Et donc, les États vont sortir complètement des trajectoires promises de restauration de leurs finances publiques. Et pendant ce temps-là, la rigueur met des gens au chômage, et puis en plus, non seulement elle les met au chômage, mais elle rend de plus en plus difficile leurs conditions de vie, en baissant leurs retraites, en bloquant les salaires des fonctionnaires, en diminuant les prestations sociales. Donc, les politiques coordonnées de rigueur sont en train d'étouffer la croissance, donc vont compromettre la restauration des finances publiques telles qu'elles avaient été envisagées dans ces programmes d'austérité. Ça peut rallumer la panique des marchés très, très, très rapidement. Et puis surtout, la marmite sociale est en train de bouillir quand même. C'est plus seulement ce petit pays exotique qui est la Grèce qui se met dans le tumulte, mais quand on voit l'ampleur des manifestations en Espagne et d'une certaine manière, pas la violence, mais la dureté du choc, je crois qu'il va y avoir sans doute à l'automne des surprises dans les différents pays européens.
Mésistar sur PFM 99.9, magazine Tumulte, libre et sans pub.
I wanna hold the hand inside you. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the your life, you grow in shadow. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not. Strange you near. put your hands into your hands. And then smiles cover your heart. Fade down to you. Strange.
Magazine Tumulte sur Radio PFM. Nous sommes en compagnie de Laurent Cordonnier, économiste enseignant à l'Université Lille 1, et Philippe Ledoussal, enseignant de philosophie. Alors Philippe, tu vas nous donner un petit coup de projecteur philosophique sur la notion de démocratie.
Oui, alors bon, ça tombe évidemment en un moment qui est censé être un grand moment démocratique, c'est-à-dire le moment des élections présidentielles. Alors, on était justement en train d'en parler en antenne avec Laurent pour dire que, quand même, le débat qui nous est proposé est quand même d'une pauvreté absolument consternante. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les grandes questions sont en train de disparaître du débat présidentiel, quoi, que ce soit la dette, l'écologie, enfin bon, etc. Alors, sur cette question de la démocratie, bon, le terme, il est grec, hein, il veut dire un truc très simple, il veut dire que c'est le pouvoir du démos, donc du peuple, quoi. Pouvoir du démos du peuple, c'est-à-dire pouvoir de ceux qui sont citoyens et qui ont droit de la participation politique. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on peut donner d'autres définitions, hein, les fameuses définitions qui disent que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ou encore, je donnerai une autre définition chez Spinoza, par exemple, qui disait, hein, une belle définition de la démocratie, qui dit que la démocratie, hein, est l'union des hommes jouissant en tant que société organisée d'un droit souverain sur tout ce qui est en leur pouvoir. Alors c'est une belle définition parce qu'elle essaye de donner à la fois l'idée de la démocratie comme organisation, hein, comme organisation sociale, société organisée, et en même temps, union des hommes jouissant d'un droit souverain, c'est-à-dire qu'on ne renonce en rien quand on rentre en société démocratique. Hein, c'est-à-dire qu'on garde finalement le pouvoir sur ce qui est dans notre pouvoir, évidemment, puisqu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc autrement dit, chez Spinoza, il y a cette volonté de maintenir à la fois un pouvoir commun, une organisation, mais aussi une liberté individuelle égale, hein, entre tous les hommes. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça sur la définition de la démocratie, bah après, le problème, on voit bien le problème, c'est qu'en réalité, il y a plein de formes politiques très diverses qui peuvent se réclamer de la démocratie. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés, tout le monde est démocrate, tout le monde se réclame de la démocratie, tout le monde dit qu'il est démocrate. Bon, ça, c'est la première chose. Mais entre la démocratie représentative, hein, qui passe par l'élection d'un certain nombre de représentants, les représentants du peuple, etc., et la démocratie directe, par exemple, bon, où les individus eux-mêmes décident et contribuent à intervenir et à faire la loi, il y a évidemment beaucoup de différences. Et puis on disait que le peuple, c'était l'ensemble des citoyens. Bon, et la question, évidemment, c'est qui est citoyen ? C'est-à-dire que l'un des enjeux de la question démocratique, c'est qui a des droits politiques et comment il les exerce. Bon. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il me semble que quand on regarde le discours qu'on entend sur la démocratie, on voit plusieurs choses. D'une part, comme je disais tout à l'heure, tout le monde se réclame de la démocratie, mais en même temps, on a affaire à une identification de la démocratie, à une forme. C'est à une forme très précise. C'est-à-dire, la démocratie, c'est la représentation, c'est le fait d'élire des représentants qui vont décider des lois pendant un certain temps, c'est l'état de droit. Bon. Et au fond, on a l'idée que la démocratie se confond avec les institutions telles qu'elles sont. Bon. Voilà, on serait arrivé à une forme démocratique achevée qui passe par la démocratie représentative, le libre marché. Bon. Évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Je rappellerai juste cette remarque que faisait Rousseau à propos de la monarchie parlementaire anglaise. Il disait que le peuple anglais se croyait libre, mais qu'il se trompait complètement parce que, eh bien, une fois qu'il était libre, effectivement, au moment où il élisait ses représentants, mais que le reste du temps, il était parfaitement esclave. Bon. Puisque, à ce moment-là, évidemment, le pouvoir appartient à d'autres. Et en même temps, il y a une autre chose qui est frappante dans les discours que l'on entend, c'est qu'en même temps où on dit qu'on se réclame de la démocratie, on a en même temps une remontée du discours et de la critique de la démocratie. Bon. Sur des thèmes assez précis. Bon, par exemple, il y a cette inflation d'un terme très vague, ce qui est celui de populisme, qu'on emploie de toutes les manières, etc. Et qui renvoie à cette idée que finalement, le peuple fait n'importe quoi. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui, etc. Et puis, s'il vote bien, c'est bien, mais s'il vote mal, c'est pas bien. Bon, c'est le fameux exemple du référendum sur la Constitution européenne, où on voit bien qu'il y a cette idée que le peuple ne sait pas. Bon. Et aussi d'une critique de l'homme démocratique. C'est-à-dire, l'homme démocratique, ce serait l'homme qui serait toujours dans le toujours plus, qui a toujours des demandes, qui n'a aucune vision à long terme, qui se laisse porter par ses désirs immédiats, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui aussi un discours qu'on entend. Donc on a ce double discours à la fois. Il faut être démocrate et en même temps, la démocratie serait pas une bonne chose. Il faudrait la guider, il faudrait guider le peuple, etc. Autrement dit, avec cette idée, au fond, assez simple, c'est que... L'homme démocratique serait irrationnel et que donc il faut une forme d'oligarchie, de gouvernement, des élites, des experts, etc. pour le guider. Alors pour éclairer ce débat, il faut revenir aux origines même de la démocratie, c'est-à-dire à la question, ça va faire plaisir à Jean, de la démocratie athénienne. Bon, la démocratie athénienne, elle a un certain nombre de... qui est l'origine, on va dire, de la tradition... tradition démocratique, oui. Bon. D'abord, elle est limitée, cette démocratie, parce qu'à Athènes, le nombre de citoyens est très limité. Donc, je regardais, il y avait à peu près 40 000 citoyens sur 250 000 habitants, puisque les femmes, les esclaves et les étrangers, les métèques en grec, n'étaient pas citoyens. Bon. Mais en même temps, elle reposait sur des institutions de démocratie directe. C'est-à-dire qu'elle reposait d'une part sur une assemblée qui regroupait plusieurs milliers de personnes, bon, qui décidaient effectivement, parmi les citoyens, bon, qui décidaient des lois qui est de manière directe, sans déléguer, quoi. En tout cas, sans représentants élus et qui gardaient longtemps leur poste. Et ensuite... il y avait aussi donc une assemblée qui se réunissait régulièrement, qui élaborait les lois, enfin qui proposait, qui reprenait les propositions, qui préparait la grande assemblée. Donc, et là, les citoyens étaient tirés au sort. C'est-à-dire, parmi les citoyens, on tirait au sort les gens qui allaient participer à ça. Alors, du coup, c'est très intéressant parce que ça montre que dans la démocratie athénienne, il y a quand même cette idée qu'à partir du moment où il est citoyen, n'importe qui peut participer du pouvoir. Et que c'est ça, la question démocratique. C'est-à-dire, la question démocratique, c'est l'affirmation d'une égalité qui fait que n'importe qui, à partir du moment où il est citoyen, doit participer du pouvoir d'élaborer les lois. Bon. Et évidemment, ça... aujourd'hui, bon, on pourrait dire que chez nous, on a un peu le problème inverse, c'est-à-dire que dans la démocratie dans laquelle nous vivons, Le nombre de citoyens est évidemment beaucoup plus large. Hein, il n'a cessé de s'élargir, même c'est un des aspects de la démocratisation, hein, que de plus en plus on reconnaît le pouvoir politique à de plus en plus de personnes, le droit de vote des femmes, enfin bon, etc. etc. Mais en même temps, bon, on élit des représentants et est-ce qu'on a un pouvoir réel ? Bon, puisque c'est la question du pouvoir qui est essentielle. Hein. Bon, en tout cas, bon, pour revenir à la démocratie athénienne, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps qu'on voit la démocratie athénienne exister, on voit aussi sa critique. Et notamment chez Platon, hein, donc le grand philosophe, l'un des premiers grands philosophes, en tout cas qui laisse une œuvre écrite importante, etc., ben, on a une critique de la démocratie et on trouve exactement les éléments que l'on entend encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le régime démocratique, c'est un grand bazar. Hein. Ça n'a pas d'unité. Il n'y a pas de principe d'unité. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Et l'homme démocratique, de la même façon, bah, il se laisse porter par ses désirs immédiats, etc. Et alors, du coup, la démocratie produirait l'anarchie. Hein. Alors ça, c'est affreux, l'anarchie, c'est pas bien du tout. Hein. Et d'une part, et d'autre part, évidemment, à partir du moment où elle produit ça, l'anarchie et la démagogie, hein, eh bien, elle tendrait aussi, à ce moment-là, forcément, à produire la tyrannie, c'est-à-dire que pour rétablir une unité à un ordre, on va s'en remettre, finalement, à un homme providentiel, un tyran quelconque, etc. Bon. Et Platon, il veut remplacer ça par quoi ? Il veut remplacer ça... Alors, il critique aussi les autres régimes, hein, qui existent en son temps. Rien ne le satisfait, finalement. Et il veut remplacer ça par, finalement, la fameuse histoire des philosophes rois, c'est-à-dire c'est ceux qui savent, qui doivent gouverner. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de revenir, justement, à cette question, en quelque sorte, du scandale. C'est Jacques Rancière, donc un philosophe contemporain, hein, qui parlait de ça, du scandale démocratique. C'est-à-dire que l'idée que n'importe qui puisse l'affirmation d'égalité, quoi, hein, comme postulat, c'est-à-dire que l'affirmation d'égalité, c'est pas quelque chose qu'on doit viser, qui doit venir plus tard, c'est le point de départ, c'est-à-dire on affirme que n'importe qui doit pouvoir décider. Alors ça a toujours été vu par très mal vu finalement, quoi, par toute une partie, et notamment évidemment par ceux qui ont du pouvoir, hein, c'est-à-dire que comme un principe de désordre, comme le pouvoir de la canaille, de la racaille aujourd'hui, ou que sais-je, bon, des multitudes, etc. Bon. Donc évidemment, il y a un principe, et on voit bien que la démocratie ne se confond pas avec un système, une institution particulière, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est plutôt une remise en cause permanente des formes de pouvoir, de la légitimité des pouvoirs qui existent, etc. C'est-à-dire que la constitution ou le mouvement démocratique, c'est quand même le fait de dire, bah, un tel a un pouvoir, un tel a une place. Pourquoi ? Pourquoi ? Au nom de quoi il en tire une légitimité ? Et donc le refus de toute légitimité qui ne soit pas directement populaire, hein, de tout qui ne soit pas directement fondé dans un accord dans une décision, hein, dans une souveraineté populaire. Autrement dit, le pouvoir d'un dieu contient de Dieu, le pouvoir contient de l'argent, le pouvoir contient d'un savoir. Eh bien, tout ça doit toujours être mis en cause. Bon. Et donc on voit bien que la démocratie, du coup, si on la pense comme ça, là encore, bon, c'est un débat qui va à l'encontre d'un certain nombre de choses, enfin c'est quelque chose qui va à l'encontre de choses qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est la démocratie à ce moment-là, c'est pas le consensus, c'est plutôt l'inverse. Hein, de toute façon, la démocratie se nourrit du dissensus, quoi, du fait de remettre en cause et que justement ceux qui n'ont pas part à un certain nombre de pouvoirs le réclament ou remettent en cause les pouvoirs qui existent. Autrement dit, hein, là encore, c'est Rancière qui disait ça. Il disait que c'est la question de la part des sans-part. Hein. Ceux qui n'ont rien, bah, comment ils vont remettre en cause, hein, la répartition du pouvoir. Alors, et donc ça pose évidemment les formes démocratiques posent à ce moment-là la question du pouvoir du peuple. Hein. Comme le peuple, alors qui n'est pas simplement justement des groupes d'intérêts, des lobbies, etc., mais ceux qui réinterrogent constamment les formes de pouvoir et de légitimité telles qu'elles existent. Et sur la démocratie directe, on voit bien que par exemple dans les périodes où on va où, dans les périodes de transformation sociale et même dans les périodes de l'origine de démocratie, qui sont souvent des périodes de révolution, de mouvements sociaux importants, etc. Bah, la forme qui s'impose toujours, etc. C'est le club, c'est le conseil, c'est le soviet, enfin bon, etc. C'est-à-dire c'est des formes de démocratie directe. Hein. C'est des formes de démocratie directe. Bon. Et enfin, juste pour finir, je dirais que justement ce mouvement démocratique, hein, qui vise au fond à l'autodétermination du peuple, c'est-à-dire à une forme d'autonomie, hein, c'est là que la question de l'égalité, tout le monde doit pouvoir intervenir, rejoint la question de la liberté, c'est-à-dire, hein, au fond, nous sommes autonomes et nous décidons nous-mêmes des formes de vie et de répartition des places, etc., dans la société que nous voulons. Bon. Donc ça c'est... Hein, comment Marx disait que la démocratie, dans ce sens-là, hein, alors, bon, il disait que c'était l'énigme résolue de toutes les constitutions, c'est-à-dire que ça renvoyait toujours au peuple réel. Hein, et qu'au fond, le mouvement démocratique, c'est de dire, bah, voilà, quel est le... Hein, c'est l'homme qui, de la même façon que c'est l'homme qui fait Dieu et pas Dieu qui fait l'homme, bah, c'est l'homme qui fait les lois, ce sont les hommes qui font les lois, et il faut toujours en revenir à ce fondement-là. Et les hommes indéterminés, c'est-à-dire n'importe qui. Voilà, l'égalité originelle.
Eh ben, merci Philippe. Une réaction, Laurent ?
Bah, on comprend pourquoi ça marche pas. Hein.
oui. Juste quand même, on comprend pourquoi ça marche pas. Je sais pas, imaginons par exemple que demain l'Assemblée nationale soit tirée au sort. Est-ce que ça marcherait moins bien ?
Oui, tout à fait. Et oui, c'est une superbe proposition. On pourrait même tout à fait imaginer que les partis politiques continuent à avoir un rôle, mais ce serait un rôle d'instruction des citoyens, d'animation de la controverse. Ils pourraient peut-être, pourquoi pas, présenter des propositions devant les assemblées. Sans doute que, effectivement, la qualité du débat démocratique serait peut-être un petit peu tirée vers le haut si ça devait se faire comme ça. Et puis, on verrait peut-être dans les partis politiques d'autres gens aussi, parce que il y aurait un petit peu moins de place à prendre, il y aurait un peu moins de pouvoir à gagner. Il resterait un petit peu de gloire et d'appétit pour faire passer ses propres idées et convaincre les autres. Donc ce ne serait peut-être même pas le même personnel politique qui serait dans les partis et qui animerait ce débat. Et effectivement, si on prend un échantillon représentatif d'un millier de Français, on doit arriver à représenter à peu près ce que c'est que notre pays, quoi, en tirant au sort. Mmh.
Les jurys populaires en justice, c'est...
Oui,
tout à fait.
C'est
ce principe-là, non ?
C'est ce principe-là, oui.
Alors, justement, là, c'est un aspect des choses. Je crois que l'idéal démocratique, ça n'est pas forcément la démocratie directe, parce que on voit que dans une démocratie installée depuis longtemps, les mœurs démocratiques se diffusent à tous les niveaux. Et y compris dans les organisations elles-mêmes, les organisations infra-politiques. Tu venais de citer le jury populaire. Un jury populaire, il délibère effectivement sur des questions de justice, de peine, etc. Mais dans un hôpital, un collectif de médecins, il délibère sur des protocoles, sur ce qui est de la compétence de son métier, sur de l'éthique, etc. Et puis dans une université, les collègues se donnent aussi leurs propres règles. Parfois, elles ne sont même pas écrites, d'ailleurs, mais pour régler un certain nombre de problèmes, il y a des doctrines qui ont été élaborées, qui ont été délibérées à la majorité, etc. Donc, dans une démocratie, il y a quand même de la démocratie un peu partout, normalement, et pas seulement dans l'élection des dirigeants qui font les lois. Et je crois que l'un des problèmes du candidat sortant, c'est que, de ce point de vue-là, il a profondément attaqué ces corps intermédiaires, et en mettant dans ces corps intermédiaires, il a fait tout le contraire, d'une certaine manière, d'être un libéral avec cela. Il a remis des caporaux, des chefs, des directeurs, des principes de tarification, etc. Et ce qui fait qu'on délibère beaucoup moins dans ces organismes. Et et on essaie de les faire fonctionner de plus en plus de manière pyramidale, avec des chefs. Ou peut-être dans les journaux, là où c'était le comité de rédaction qui était peut-être l'endroit où s'élaborait la doctrine, c'est de moins en moins dans cet endroit, c'est de plus en plus dans le bureau du directeur ou même dans le bureau des actionnaires. Donc je crois que l'un des dangers de la démocratie, c'est de considérer un petit peu trop le face-à-face entre le peuple et ses dirigeants, parce qu'au milieu, il y a un tas de trucs qui grouillent et qui fait la qualité aussi de la démocratie.
Philippe, oui.
Oui, enfin, je sais pas, là-dessus, il y a plusieurs remarques. C'est vrai que, par exemple, sur cette question de la volonté générale, de la souveraineté populaire, etc., sur la démocratie directe, dont Rousseau, par exemple, était quand même assez partisan, où il disait que pour ça, il faudrait un peuple de Dieu, quoi. Bon. Mais en même temps. Le dirigeant, enfin bon, nous on est dans un type de régime, quoi, présidentiel, etc. Bon, alors il faut bien des gens qui à un moment donné incarnent quelque chose, enfin incarnent l'unité, mais quand même la question démocratique, c'est la question de la souveraineté de la communauté, c'est-à-dire et de la communauté dans son ensemble. Alors et c'est vrai que dans cette histoire du pouvoir des incompétents, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui heurte, y compris nos habitudes. Mais par exemple, quand si on parle d'une communauté, je sais pas moi, de professeurs, par exemple, on parle de quelque chose que je peux connaître un petit peu. Eh bien, oui, on peut discuter entre nous de ce qu'on doit faire. Mais le moment intéressant et peut-être le moment démocratique, c'est quand même le moment où quelqu'un qui, je sais pas, celui à qui on enseigne, quelqu'un qui est là et etc., qui n'a pas de compétences particulières, nous demande pourquoi on est là. Enfin, et c'est ça aussi la. Et c'est ça la question. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir des corps intermédiaires, c'est-à-dire des façons dont les individus peuvent se regrouper pour avoir du pouvoir, parce que c'est ça aussi quand même. Sinon, effectivement, il est de plus en plus capté par une oligarchie de plus en plus réduite. C'est quand même ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un... Mais en même temps, les experts, les représentants perpétuellement attitrés, etc., tendent évidemment à créer aussi des oligarchies. Alors, est-ce que c'est pas le pouvoir direct d'un homme ou l'élimination des corps intermédiaires qui résout ça? C'est plutôt la mobilisation ou le regroupement qui peuvent se faire des gens. Il me semble. Enfin.
Ouais, on pourrait faire référence. Bon, tu as fait référence à Athènes pour la démocratie, mais on pourrait se pencher. Mais là, il faut avoir lu peut-être un peu Pierre Classe sur les sociétés sans État, hein, parce que bon, bah, par exemple, dans le débat sur la question démocratique, il y a par exemple le courant libertaire qui dit, la démocratie, c'est quand il y a plus d'État. En fait, c'est la démocratie réalisée. Et on a connu, il y a existé des sociétés sans État qui, justement, faisaient en sorte toutes leurs coutumes, leurs rites, le fonctionnement de la société était de faire en sorte que celui qui incarnait, par exemple, le chef ne devienne pas, ne soit pas chef, qu'il ait aucun pouvoir, qu'il soit un pouvoir purement symbolique, transitoire, très facilement prétexte à rire, à moquerie, et qu'à aucun moment ce chef peut devenir réellement un chef. De même que, donc, sur tout un tas d'aspects dans ces sociétés, il n'y a pas de fonction séparée qui vient se fixer sur une caste ou une classe bureaucratique. On se dit que c'est un peu, on aimerait faire la synthèse entre ces sociétés-là et puis qui sont des sociétés où on travaille peu, mais parce que il y aurait peu à travailler. C'est un choix. Et il y a, c'est, ce sont des sociétés, comme dit Salins, des sociétés d'abondance où on passe énormément de temps. Parce que c'est le cas de des sociétés aborigènes en Australie. On travaille peu de temps. On travaille peu de temps, c'est-à-dire bon, c'est la pêche, la chasse. Hein. Par contre, on passe énormément de temps dans l'organisation sociale, dans l'échange, dans la pratique culturelle, la redistribution, etc. Et donc, on pense à faire cette synthèse en ce type de société à faible production et nos sociétés avec qui ont une grande production mais une peu comment dire de capacité démocratique qui ne peu de démocratie directe en fait. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien
fait. Oui, tout à fait. Et peu de temps passé à discuter de l'organisation sociale finalement, et à échanger sur l'être ensemble. Et l'une des choses que raconte Pierre Clastre, c'est que ce qui est important dans le, on pourrait dire le, dans tout ce qui contient le pouvoir de la chefferie dans ces sociétés dites archaïques, c'est aussi que les échanges et la réciprocité entre les différents segments de la société sont faits en sorte qu'ils évitent à un moment donné la centralisation d'une redistribution. Si redistribution il y a, c'est dans une réciprocité, disons, de même niveau, de niveau entre pairs. Le chef, bon, il y a une partie un peu du surplus qui est un peu centralisée auprès de lui, dans ses resserres, etc. Mais ça n'en fait pas quelqu'un d'extrêmement puissant. Il entretient quelques petites relations de clientèle quand même pour assurer son pouvoir. Et puis, de toute façon, il est obligé de redistribuer à la demande. Il est harcelé. Et puis, au moindre incident climatique ou quoi, de toute façon, il doit vider les réserves. Donc, il n'y a pas de mouvement de centralisation du surplus. Au contraire, il y a des rites de dilapidation du surplus économique, et puis on travaille pas trop non plus, donc ça évite aussi de générer un surplus économique. Donc la question du pouvoir politique et de sa centralité et de sa création comme une instance séparée du social, comme disait Jean, elle est fortement liée à ce qu'on fait du surplus économique, quoi. Comment on le dilapide, et comment éventuellement on l'échange et on le redistribue.
Ouais, aujourd'hui, ça voudrait dire un peu comment on fait pour ne pas le produire. Ça rejoint un peu la question de la décroissance, enfin ou une croissance sélective, etc. Quoi. Quelques mots de conclusion, Philippe, parce qu'il est l'heure.
Oui, non, mais juste pour dire que juste pour dire que c'est vrai que cette question des formes de vie sociale qui deviennent qui s'autonomisent, quoi, et qui finissent par l'aliénation, quoi, c'est-à-dire ces éléments qui se retournent contre nous, qui se maintiennent, etc., et qui deviennent des formes de pouvoir, alors que ce soit le pouvoir étatique, le pouvoir du capital, toute une série de pouvoirs comme ça, c'est au cœur de la question démocratique. Mais c'est au cœur de la question démocratique comme vraiment cette société qui cherche ou qui devrait chercher à s'auto-organiser, quoi. Et je crois que c'est ça le point absolument central. Bon.
Et il faut rappeler qu'il y a un endroit où il n'y a pas de démocratie dans notre monde, c'est dans l'entreprise.
Affaire à suivre. C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine. Salut.